bien, nous nous retrouvons dans l'émission Mosaïque et autour de la table du studio, il y a Chantal Matelet pour les catholiques, Roger Bianchi et Catherine pour les protestants, Jean-Pierre Dubreuil pour les humanistes, Mimoun Enbati et Fatna Tari pour les musulmans et j'anime cette émission. Merci à Guy d'assurer la technique. Traditionnellement, nous commençons par des petites nouvelles. Alors je crois, Mimoun, que vous avez une information.
Une invitation. Il y a l'Union franco-algérienne, qui est une association de Rouen, qui organise chaque année un dîner-débat, qui aura lieu cette année le samedi 12 novembre autour du dialogue pour le vivre ensemble, avec comme intervenant le professeur Mustapha Cherif, qui est philosophe et islamologue. Donc ce dîner-débat aura lieu le samedi 12 novembre à partir de 18h à l'espace Paul Bert à Dreux. Les personnes qui sont intéressées, qui veulent avoir plus d'infos, téléphonent au 06 46 37 51 07.
Voilà, une invitation. On peut rappeler aussi en lien avec notre émission, l'invitation du pape François pour l'anniversaire de la rencontre d'Assise aux représentants des diverses religions à Assise, justement. Et nous nous situons dans cette tradition de rencontre, puisque ce sont les rencontres qui permettent de faire tomber les préjugés des uns vis-à-vis des autres. Ce qui me permet une transition très facile avec le thème de notre émission d'aujourd'hui, les symboles que les uns et les autres avons dans nos différents édifices religieux sont à connaître. Connaître, ça permet de faire tomber les préjugés et c'est bon pour tout le monde. Alors, qui commence ? Madame Tari, vous avez préparé quelque chose sur la mosquée ?
Oui, effectivement, un petit historique de ce qu'est la mosquée. La première mosquée s'est érigée à Kouba, à 3 km de Médine, lors de l'exode du prophète et de ses fidèles quand ils sont partis de la Mecque vers Médine. La deuxième mosquée construite, c'est celle de Médine, qu'on appelle aujourd'hui la mosquée du prophète, en arabe Masjid al-Nabawi, et qui se trouve à Médine, et construite peu de temps après la première, c'est-à-dire 622 du calendrier grégorien.
Voilà, donc la mosquée, donc c'est un bâtiment.
C'est un bâtiment. Au départ, quand ils ont commencé à ériger la mosquée de Kouba, il n'y avait rien. Donc l'histoire raconte que c'est la chamelle du prophète qui a choisi l'endroit. Donc c'était à même le sol, par terre. Donc il n'y avait pas de mur. Ils ont fait ça avec des branches,
des troncs d'arbres. C'était un enclos de prière, en
voilà.
fait.
Voilà, c'était un enclos de prière. Et il n'y avait pas de minaret pour faire l'appel à la prière. Le premier appel a été fait par Bilal, qui était un compagnon de couleur noire. Et c'est lui qui a été choisi par le prophète Mohammed pour faire cet appel, parce qu'il n'y avait pas de cloche. La cloche étant déjà en service chez les chrétiens, l'église. Et donc, il fallait trouver un moyen pour faire,
donc, pour appeler, à la prière.
Voilà, pour appeler tous les fidèles, puisque quand ils étaient éparpillés, au moment des prières, il fallait les appeler. Donc, il s'est mis sur le toit pour appeler les fidèles. Donc ça, c'était le premier appel à la prière, donc fait par Bilal.
Un lieu de rassemblement, la mosquée.
Voilà.
Un lieu où on appelle les musulmans à la prière.
Voilà.
Alors, comment ça se passe exactement chez les autres ?
Eh bien, à Marceau-Seux, le temple, dans les premiers construits dans la région, regroupait une paroisse, puisque la paroisse actuelle regroupe plus de 160 communes. C'était peut-être un peu moins étendu, mais pour appeler les gens à venir au culte, on sonnait 100 fois la cloche le dimanche matin.
100 fois ?
100 fois le coup de cloche pour appeler au venir au culte.
Alors, et à l'époque, on le faisait à la main. Maintenant, c'est électrique.
Comme dans Camillo. Là.
Et le temple, c'est le lieu qui rassemble les chrétiens, c'est protestants, ça. Pour la prière.
Pour la prière, ou pour le culte. Pour le culte,
le culte même, pour la méditation, service. le chant, l'échange.
Pour le culte hebdomadaire, donc.
Voilà.
D'accord. Et chez les cathos, alors c'est vrai que dans les villages de France, on voit souvent les églises et les clochers.
Les églises et les clochers. Dans mon enfance, je me souviens que la messe était annoncée une demi-heure avant, sonner la cloche pour nous dire « préparez-vous ». Et juste un quart d'heure avant la messe, là c'était l'envolée, comme on disait, et là c'était vraiment l'appel. Et alors la cloche était aussi un moyen de dire qu'un événement important venait de se faire. Après un baptême, on sonnait la cloche pour signifier qu'un nouveau chrétien était parmi nous. Et puis ben, les enterrements aussi, toutes les célébrations, on sonne la cloche. Alors pour les enterrements, il y avait le glas. Le glas. Mais c'est vrai que la cloche signifie pour les chrétiens catholiques, qu'un événement important se passe au sein de la communauté catholique.
C'est vrai qu'au temple, quand il y a un mariage qui est célébré, la cloche est sonnée à l'issue du mariage. Et effectivement, après les enterrements, c'est une autre sonnerie, mais le glas est sonné également après l'enterrement.
Donc on signifie ce... Est-ce que dans les mosquées et chez les musulmans, il y a, au moment des enterrements, une réunion dans la mosquée ou bien... Comment ça se passe?
Alors, quand il y a un défunt, effectivement, l'imam ou une personne désignée responsable de la mosquée fait l'annonce, un tel ou une telle est décédé et tel jour, à telle heure, il y aura la prière funéraire.
La prière funéraire se tient à la mosquée?
Se tient à la mosquée et peut se tenir aussi au cimetière. Mais bien souvent, c'est à la mosquée qu'elle se fait pour qu'il y ait le plus possible de fidèles pour prier sur le défunt. Parce qu'il est dit, plus il y a de fidèles qui prient sur cette personne, plus elle aura de grâce, si je puis dire, auprès de Dieu. Et plus on reconnaît ses mérites, plus il y a de gens qui font la prière, plus elles sont à même de témoigner de ses bonnes mœurs, de son bon comportement, etc. Donc, il est très important qu'il y ait du monde. Et donc, la prière funéraire n'est pas la même que la prière quotidienne. D'accord. Elle se fait différemment.
Alors, nous avons évoqué donc les bâtiments. On a vu qu'il y avait l'appel, les cloches qui jouent l'appel. Est-ce que ces bâtiments, vous avez dit tout à l'heure, on a choisi le lieu. Est-ce qu'ils ont un lieu particulier, ces bâtiments? Le temple. Est-ce qu'on érige le bâtiment dans un lieu particulier ou est-ce que c'est un peu choisi parce qu'on a un terrain et qu'on peut construire un temple?
Oui, c'est plutôt ce...
Oui, effectivement, au moment de la réforme, après la réforme, il y avait une interdiction de construire des temples dans un lieu où, par exemple, Dreux, on ne pouvait construire un temple que 7 lieues autour de Dreux. Et c'est pour ça que les communautés du secteur, ça a été Blainville, ça a été Bus, ça a été... un certain nombre de communes, et puis finalement, ça s'est rassemblé à Marceau-Sceaux.
D'accord.
Au départ.
Et pour les chrétiens, c'était au pour centre les chrétiens du village, parce que la paroisse, c'est-à-dire la circonscription chrétienne, s'est confondue très vite avec la commune ou avec la communauté humaine.
Par contre, je dirais que toutes les églises, normalement, ne sont pas construites dans n'importe quel sens. Il y a un sens, il y a une orientation. Le cœur de l'église... est à l'est, l'est représentant le levant, et le levant c'est la résurrection du Christ. Et donc le portail principal, si on peut dire, est à l'ouest.
Je crois qu'il y a une orientation aussi.
Alors concernant la mosquée, concernant la mosquée, donc à part les trois mosquées importantes, les trois lieux saints, donc la mosquée de Médine, la mosquée de la Mecque et la mosquée de Jérusalem, Al-Aqsa, qui ont une place bien précise, comme celle de la Mecque, bien sûr, c'est autour de la Kaaba. Les autres mosquées n'ont pas d'emplacement spécifique. Ce qui est important, c'est au sein même de la mosquée. Il faut qu'il y ait un endroit qu'on appelle le mihrab. C'est une niche dans le mur qui indique l'orientation de la prière et qui est dans l'orientation de la Mecque. C'est ça qui est important. Sinon, la mosquée en elle-même, ça peut être n'importe quel terrain qui est mis à disposition, peut faire l'affaire pour la construction de la mosquée. Et je voulais juste revenir pour... tout à l'heure, on a évoqué les cloches. Donc, pour la mosquée, je disais qu'il y avait l'appel par la voix de Bilal, le premier appel. Mais avec le temps, il y a eu le minaret. Et au sommet du minaret, on a un haut-parleur, la technologie faisant. Donc, c'est ce qui fait l'appel à la prière aujourd'hui. Mais ça, c'est surtout dans les pays musulmans. Ici, par exemple, en France, on n'a pas d'appel à la prière. Et donc, on n'est pas tenu d'avoir un minaret. Après, l'architecture dépend de la culture du pays, dépend de la culture, oui, architecturale du pays. Ce n'est pas spécifique.
Bon, ben voilà. Alors, Il y a des questions sur les bâtiments parce que...
Oui, sur le bâtiment, moi j'ai remarqué, nous on a beaucoup, dans les églises, il y a des vitraux qui représentent des personnages ou la vie de, des passages de la Bible. Il y a aussi des statues et je voudrais savoir, pour les autres religions, si...
Alors, chez les protestants, la Bible dit bien, dans je ne sais plus quel passage... Tu n'auras pas d'idole, tu n'auras pas d'image. Donc, c'est un petit peu ce que les protestants ont adopté, un lieu relativement dépouillé. Mais par contre, vous rentrez dans un temple, la première chose qui est mise en évidence, c'est la Bible. Voilà.
Donc, pas
c'est
d'image.
Une Bible, il y a très peu d'images.
Hein, il n'y a pas d'image, normalement.
Il n'y a pas d'image, on peut avoir une croix, simplement, mais pour les protestants, Christ est ressuscité.
La croix est ressuscité,
donc c'est, il n'est pas crucifié, il n'y a pas de crucifix comme on voit dans les églises. Et
la
croix est très discrète, c'est très discrète, l'essentiel c'est la Bible.
Et la,
la vérité dans la Bible, et par contre, à Mars-Osseux, effectivement, on a la chance d'avoir des versets bibliques par un sur le mur.
Dimanche dernier, le culte protestant était dans un temple à Rouillé, oui, voilà, et qui était d'une architecture assez élaborée, hein, contrairement à l'image que moi j'ai des temples d'une manière générale. Et il y avait des vitraux, mais c'était des vitraux non figuratifs, qui étaient très beaux.
Pour la mosquée, c'est dépouillé de toute figure humaine, statue, il n'y en a pas. Mais par contre, il y a une décoration très riche. Après, c'est selon les moyens, bien sûr. Mais sinon, il y a beaucoup de calligraphie, donc des versets du Coran qui peuvent être sur les murs, tout autour du plafond. Il peut y avoir aussi des formes géométriques très élaborées, donc qu'on appelle arabesques. Et tout ça, c'est fait avec différents matériaux. Ce sont aussi les matériaux qui vont compter dans la décoration de la mosquée. Donc, ça peut être du stuc, du bois, de la céramique, de la mosaïque. Et souvent aussi, les formes géométriques, comme on voit la grande mosquée de Paris, c'est encore visible, les différentes mosaïques ont une signification, ont une symbolique qui va avec le cosmos, qui va avec la terre. Qui va... Donc c'est imbriqué, mais d'une manière très élaborée. Après, il faut connaître le codage pour pouvoir déchiffrer, mais c'est aussi très élaboré. Mais on n'a pas de statut, ni d'image, ni enfin tout ce qui est humain, c'est proscrit.
Oui, mais néanmoins, je remarque une ouverture d'esprit sur ce sujet, parce que l'ancienne église Sainte-Sophie, qui est convertie en mosquée, il y a eu un respect des mosaïques, qui, elles, représentent des figures, hein, qui sont des figures de saints chrétiens.
Oui, c'est vrai, c'est une mosquée magnifique. Hein.
Oui, tout à fait.
Et puis, n'oublions pas que les temples étaient construits par les paroissiens, avec les deniers des paroissiens. Au moment de la séparation de l'Église et de l'État, c'est devenu propriété des communes, mais ça avait été financé par les paroissiens.
Il y avait aussi quand même,
dans une participation.
Cas, une participation de l'État. Bon,
par exemple, il y a eu une participation pour le clocher du temple de Mars-Osseux. Et puis, depuis la loi de la séparation de l'Église et de l'État, bien entendu, les temples qui ont été construits
sont propriétés
de l'Église et pas de,
étaient nus,
de la commune.
Carrément, rien. Il y avait une croix éventuellement, mais surtout la Bible.
Oui.
La réforme a axé toute son action sur la Bible, ce qu'il y a dans la Bible. Donc on a éliminé tout ce qui était une représentation humaine ou une intercession, parce que, en fait, si on va chez les frères catholiques, on prie un saint pour. Donc c'est l'intermédiaire d'eux, alors que chez les protestants, on prie Dieu par son Fils.
Et puis, dans les églises catholiques, vous avez des autels. Chez les protestants, c'est une table qui est ouverte pour montrer que le diable n'était pas caché dessous.
C'était une réaction au moment de la réforme. Voilà.
Au moment de la réforme, mais il y avait le diable, donc ce n'était que des tables.
Rien ne pouvait se cacher dessous la table.
Donc beaucoup de symbolique dans les meubles même, oui, si je puis dire.
Oui, alors c'est vrai que dans un hôtel, c'est-à-dire c'est une table, le meuble dont on parle, l'hôtel, à l'origine c'est une table, c'est la table du sacrifice. Mais c'est vrai aussi que très vite, on a pris l'habitude de mettre des reliques dans cette table, dans cet hôtel. Donc effectivement, dans la mesure où le culte des saints était éliminé chez les protestants, pas de relique, donc la table est beaucoup plus simple.
Attention, qu'on soit bien clair, on est tous saints. Il n'y a pas un qui a une place particulière par rapport à l'autre. Simplement, il y a ce phénomène-là, on ne vénère pas, il n'y a pas de vénération sur la personne.
On ne vénère pas Marie. Marie, c'est la mère de Dieu, point.
Alors c'est vrai que dans la religion chrétienne catholique, Marie joue un rôle extrêmement important, puisque c'est la médiatrice. Mais le Christ, quand même, c'est lui l'unique médiateur.
Oui, il y aura encore beaucoup de discussions possibles encore là-dessus, parce qu'effectivement, nous, on reconnaît quand même que Marie est la mère du Christ.
Ça a été élaboré avant la réforme ?
Ce qui n'a pas été élaboré avant, c'est le mythe de l'Immaculée Conception, qui est quand même très récent.
En effet. Alors là, il faudra reparler de ces questions de théologie, notamment de théologie concernant Marie. Alors nous étions toujours dans le bâtiment. Les bâtiments quand même ont une architecture très particulière. Ces églises, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une architecture très particulière. On peut peut-être évoquer pourquoi il y a cette architecture particulière dans les églises, les basiliques, les cathédrales.
Souvent elles ont une nef et puis des transepts. Et c'est la forme d'une croix, hein, la croix du Christ. Hein. Donc avec le cœur qui va vers l'est, le fond de l'église qui est à l'ouest, et donc les transepts sont au sud et au nord. Voilà.
Donc la forme de croix pour les églises. Et dans les basiliques primitives, elles empruntaient à l'architecture romaine, donc c'était un temple rectangulaire. Et puis après, on a ajouté ces petites ailes, si j'ose dire.
Oui, tout à fait. Mais les églises modernes n'ont pas obligatoirement cette forme-là. Moi, je vois l'église où je vais tous les dimanches, qui est une église drouaise à Saint-Michel. Elle n'a pas du tout cette forme-là, elle a la forme d'un navire, je dirais, presque.
Quelle est la symbolique, justement, qui a présidé à cette forme ?
Alors là, vous me posez un piège.
C'est le rassemblement, non ?
Oui, je pense que c'est le rassemblement, parce que c'est vrai qu'on n'est pas aligné, on entoure plus ou moins l'autel. Et puis c'est vrai que le navire, je pense que quelque part, ça représente...
On est tous sur le même bateau.
Oui, le Christ,
mais,
oui.
Oui, dans beaucoup d'églises locales, c'est, comme le temple de Mars aux Cieux, sont des bateaux retournés, si je
voilà,
peux dire,
exactement.
La charpente en bois. Et je ne sais pas si c'est propre à la région centre ou plus étendue.
Non. On l'appelle la nef, d'ailleurs.
La nef, oui, la nef, c'est un bateau.
Oui. Je crois qu'aussi parce que les charpentes étaient faites par des gens qui venaient de la marine et qui... Voilà, je crois que là, il y a un emprunt dû au métier de charpentier qui était souvent des charpentiers de marine.
Par contre, je voulais dire une chose par rapport à l'église. Vous parliez du livre, la Bible, qui est présentée. Quand on entre dans une église catholique, il y a ce qu'on appelle les bénitiers avec l'eau bénie. Et ça, c'est dans toutes les églises catholiques, il y a l'eau. Pour se signer. Alors se signer, c'est se marquer du signe de la croix avec l'eau bénite, l'eau qui vous purifie, qui vous bénit, et on le fait soi-même. On trempe la main et on fait le signe de la croix en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour n'importe quoi, on n'est pas là pour M. Mitterrand ou M. On était là au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Voilà.
Donc... Oui, il reste un rituel aux enterrements catholiques qui me gêne, parce que quand on passe devant le cercueil pour le saluer, on vous remet
un goupillon.
un goupillon, et bien sûr, nous ne le faisons pas.
Mais là encore, je trouve qu'il y a une ouverture très nette. Moi, je vais régulièrement à des enterrements catholiques. Je ne fais pas non plus le signe de la croix, puisque pour moi, ça n'irait pas. Enfin, ça serait presque un blasphème, hein, si je croyais au blasphème. Mais le prêtre, systématiquement avant, dites, vous faites le geste qui vous semble approprié. Hein, soit toucher le cercueil.
Voilà.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais dans la file, immanquablement, quelqu'un me tend le...
Ah oui, non, c'est sûr. Non.
Mais est-ce que dans la mosquée, le corps des défunts est dans la mosquée au moment de la cérémonie?
Alors, tout dépend. Où la personne est décédée, si c'est à l'hôpital, elle va rester à la morgue un certain temps. Si la famille décide de la rapatrier, donc ça sera de la morgue à l'aéroport, puis ensuite au pays d'origine. Mais si c'est ici, dans certains pays, oui, effectivement, le corps peut être amené à la mosquée. Et d'ailleurs, avant tout ça, il y a le lavage mortuaire. Donc, ou bien il se fait chez la personne, si elle décède chez la personne, ou bien il se fait à la morgue, si c'est à l'hôpital, ou bien dans certaines mosquées, il peut y avoir un endroit dédié à ce lavage mortuaire. Et donc, ça se fait au sein de la mosquée. Et ensuite, le cercueil est disposé et les gens, comme je disais tout à l'heure, peuvent pratiquer la prière mortuaire.
Oui, c'est... Alors, je voudrais qu'on revienne quand même au bâtiment.
J'ai une question. J'ai été à l'enterrement d'un ami musulman et il avait des bandelettes autour du visage.
Alors, les bandelettes, c'est le linceul. Hein. Le défunt musulman, il n'est pas vêtu de ses plus beaux vêtements comme on peut le trouver chez les frères chrétiens. Il est dépouillé de tout ce qu'il a sur terre et donc seul le recouvre un linceul blanc. Et donc tout son corps va être recouvert d'un linge blanc et notamment donc au moment de le mettre à terre, et on lui recouvre aussi le visage de ce linceul.
Quelqu'un m'avait dit dans un pays étranger que les turbans que les messieurs portaient autour de la tête avaient un grand métrage entouré autour de la tête et pouvaient servir...
C'est un pays. Le turban qu'ils portent sur la tête, c'est en simple après
comme linceul.
Est-ce que vous avez un signe particulier quand vous rentrez dans la mosquée pour l'office?
Alors, un signe particulier, non, pas, on ne se signe pas, bien évidemment.
Il n'y a pas de signe de croix, il n'y a pas de signe,
Mais effectivement, quand on rentre dans la mosquée, on est censé être en ablution quand on rentre dans la salle de prière, et on fait deux unités, ce qu'on appelle deux rakaat en arabe, donc deux unités, et ça, c'est dû à la mosquée. Donc, on salue la mosquée de cette manière, donc deux unités pour la mosquée.
Quand vous dites deux unités, ça veut dire quoi?
Alors, quand je dis unité, c'est les prières sont composées de plusieurs unités. Alors, la prière du Fajr, c'est-à-dire le matin au lever du soleil, il y en a deux. La prière du midi, il y en a quatre. La prière de l'après-midi, il y en a quatre. La prière du coucher du soleil, il y en a trois. Et la prière du soir, il y en a quatre.
Donc quatre unités, vous voulez dire.
Donc quand on rentre pour faire une prière, par exemple, on rentre pour la prière du midi, qui est composée de quatre unités. Donc la salat du dhuhr en arabe. Avant de suivre l'imam, hein, qui va guider la prière, on en fait deux individuellement. Et ces deux-là sont le dû de la mosquée. On parle de dû de la mosquée. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on doit faire quand on rentre à la mosquée. Bien entendu, comme je disais, on doit être en état d'ablution pour pouvoir prier. On se déchausse pour le respect du lieu, parce que bon, c'est pas un lieu quelconque, même si c'est un endroit de sociabilité, un endroit d'échange, un endroit de réunion. Et en disant endroit de réunion, d'ailleurs, en arabe, le deuxième mot qui désigne mosquée est jama, qui veut dire lieu de réunion. Et pour revenir à mosquée, c'est le mot en arabe qui désigne mosquée, c'est mesjid, lieu de prosternation, donc qui est vraiment le lieu d'adoration. Et le mot en français vient, mosquée vient vers 1550. Pour la première fois, le mot mosquée a été introduit dans la langue française et il a été rapporté de la langue espagnole mesquita. Donc voilà pour la petite
pour
histoire.
Pour l'étymologie du mot.
Mais tout ça pour dire que le mot en lui-même porte la signification de la prosternation, de l'adoration,
donc,
de la
réunion.
Donc
un lieu de rassemblement, un lieu de réunion, un lieu de prosternation. Vous avez évoqué aussi les ablutions, donc voilà. Ce qui était très sommaire chez les chrétiens que vous avez évoqué tout à l'heure. Il y a un lieu d'ablution.
Voilà, il y a un endroit dédié à ça, dont différentes mosquées, notamment en Turquie, il y a des fontaines au milieu de la cour. Et ici, il y a souvent, à côté de la salle de prière, donc un coin pour les WC et des lavabos pour pouvoir s'ablutionner avant de rentrer
de prier.
À la prière.
Donc un lieu de purification d'une certaine
voilà.
manière.
Voilà, c'est pour se purifier que vous l'avez.
Exactement.
Pour arriver propre devant le...
Exactement.
Et par contre, le signe de l'eau bénite, ça envoie quand même pour les chrétiens au baptême.
Au baptême, tout à fait.
C'est un rappel.
Même, c'est dit au moment des enterrements, la bénédiction, c'est pour rappeler que la personne a été baptisée dans la mort et la résurrection du Christ. Voilà.
Pour en revenir au bâtiment, vous évoquiez tout à l'heure les décorations, donc la beauté qui mène à Dieu, j'imagine. Mais dans les vitraux, il y a quand même une autre fonction.
Alors oui, les vitraux, c'est une catéchèse. En fin de compte, c'est les premières BD pour initier les gens. Mais oui. Pour initier les gens. Et moi, je l'ai remarqué avec des enfants en allant visiter la cathédrale. C'est extraordinaire. Moi, j'y croyais pas. Je me dis, on va les mettre devant un vitrail. Ils vont pas tenir 2 minutes. Donc, on avait une guide qui était remarquable, hein, qui les a fait regarder. Et les gosses ont une faculté pour comprendre ce qui se passe. Hein. D'ailleurs, elle nous a fait remarquer qu'un vitrail avait été réparé et mal réparé. Nous, on voyait pas. Et le gosse, il a compris. Il a dit, il y a une pastille, ça ne va pas aller pas dans le bon sens. Effectivement, en remontant le vitrail, il y avait une partie du vitrail qui avait été mise comme si on avait inversé la pastille 2 avec la fascie 3. Et le gosse avait compris tout de suite. Il a dit non, c'est pas bon ça. La pastille, comme il avait dit, elle n'est pas bien mise. Effectivement, ça avait une fonction catéchétique très importante, outre le fait que c'est vraiment beau.
Oui, ça représente aussi la lumière de Dieu qui vient.
Ben oui.
Illuminer ce bâtiment dans lequel on célèbre. Eh bien, le temps s'achève et je crois qu'il est très important de poursuivre dans ce questionnement mutuel pour pouvoir rendre compte les uns des autres.
Oui, je vous remercie de m'avoir invité. Je n'ai pas amené grand-chose. Néanmoins, je fais partie des gens qui pensent que l'enseignement, un enseignement, je ne dirais pas militant, hein, religieux, mais un enseignement... simplement de connaissance des rites, des lieux
de
et tout ça, est fondamental et je suis pour que ça soit enseigné d'une manière systématique au sein de l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire.
Sur cette conclusion, je rappelle d'ailleurs que les programmes prévoient cet enseignement, mais que bon... il est peut-être oublié aussi, toutes les choses qu'on apprend aux enfants à l'école sont largement oubliées. Aux auditeurs, je dis, j'espère que vous avez pris autant d'intérêt que moi-même à ces échanges, et je leur dis à bientôt, et bonne semaine à tous. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
S'entraider, mais surtout s'aimer, main dans la main.